Bonjour, vous êtes sur Radio Campus 94.5 FM en compagnie de
Florian,
Alex,
Jelsia
et moi-même.
Aujourd'hui, nous vous proposons une émission littéraire. Avec notre professeur de français, nous avons lu des nouvelles à chute.
Alors, une nouvelle à chute, c'est d'abord une nouvelle. C'est une petite histoire, enfin un peu plus courte que les histoires qu'on a l'habitude de lire. Et à chute, ça signifie qu'à la fin, il y a quelque chose dont on ne s'attend pas au début.
La chute qu'on va lire, c'est Pauvre petit garçon, qui a été écrit par Dino Buzzati. Ben Alex, tu peux lire.
Vas-y, je commence. Comme d'habitude, Madame Clara emmena son petit garçon, 5 ans, au jardin public, au bord du fleuve. Il était environ 3 heures. La saison n'était ni belle, ni mauvaise. Le soleil jouait à cache-cache et le vent soufflait de temps en temps, porté par le fleuve. On ne pouvait pas dire non plus de cet enfant qu'il était beau, au contraire, il était plutôt pitoyable même, maigrichon, souffreteux, blafard, presque vert, au point que ses camarades de jeu, pour se moquer de lui, l'appelaient laitu. Mais d'habitude, les enfants, au teint pâle, ont en compassion d'immenses yeux noirs qui illuminent leur visage exsangue et lui donnent une expression pathétique. Ce n'était pas le cas de Dolphy. Il avait des petits yeux insignifiants qui vous regardait sans aucune personnalité. Ce jour-là, le Lambin, surnommé Laitu, avait un fusil tout neuf, qui tirait même des petites cartouches, inoffensives, bien sûr. Mais c'était quand même un fusil. Il ne se mit pas à jouer avec les autres enfants, car d'ordinaire, il se tracassait. Alors il préférait rester seul dans son coin, même sans jouer. Parce que les animaux qui ignorent la souffrance de la solitude sont capables de s'amuser tout seuls. Mais l'homme, au contraire, n'y arrive pas. Et s'il tente de le faire, bien vite une angoisse entre plus forte, s'empare de lui. Pourtant, quand les autres gamins passaient devant lui, Dolphy épaulait son fusil et faisait semblant de tirer, mais sans animosité. C'était plutôt une invitation, comme s'il avait voulu leur dire : tiens, tu vois, moi aussi, aujourd'hui j'ai un fusil. Pourquoi est-ce que vous ne vous demandez pas de jouer avec vous ? Les autres enfants éparpillés dans l'allée remarquèrent bien le nouveau fusil de Dolphy. C'était un jouet de 4 sous, mais il était flambant neuf. Et puis il était différent de leur des leurs, et cela suffisait pour susciter leur curiosité et leur envie. L'un d'eux dit: Hé, vous autres, vous avez vu la laitue, le fusil qu'il a aujourd'hui? Un autre dit: La laitue a apporté son fusil seulement pour nous le faire voir et pour nous faire bisquer, mais il ne jouera pas avec nous. D'ailleurs, il ne sait même pas jouer tout seul. La laitue est un cochon. Et puis son fusil, c'est de la camelote. Il ne joue pas parce qu'il a peur de nous, dit un troisième. Et celui qui avait parlé avant. Peut-être, mais n'empêche que c'est un dégoûtant. Madame Clara était assise sur un banc, occupée à tricoter, et le soleil la nimbait d'un halo. Son petit garçon était assis, bêtement, désœuvré, à côté d'elle. Il n'osait pas se risquer dans l'allée avec son fusil et le manipulait avec maladresse. Il était environ 3 heures, et dans les arbres de nombreux oiseaux inconnus faisaient un tapage invraisemblable. Signe peut-être que le crépuscule approchait.
Allons, Dolphy, va jouer,
m'encourageait Madame Clara, sans lever les yeux de son travail.
Jouer avec qui?
Mais avec les autres petits garçons, voyons. Vous êtes tous amis, non?
Non, on n'est pas amis, disait Dolphy.
Quand je vais jouer, il se moque de moi. Tu dis ça parce qu'il t'appelle Laitue?
Je veux pas qu'il m'appelle Laitue.
Pourtant, moi, je trouve que c'est un joli nom. À ta place, je me fâcherais pas pour si peu. Mais lui, obstiné.
Je veux pas qu'on m'appelle Laitue.
Les autres enfants jouaient habituellement à la guerre et ce jour-là aussi. Dolphy avait tenté une fois de se joindre à eux. Mais aussitôt, il l'avait appelé Laitue et s'était mis à rire. Ils étaient presque tous blonds. Lui, au contraire, était brun, avec une petite mèche qui lui tombait sur le front en virgule. Les autres avaient de bonnes grosses jambes, lui, au contraire, avait de vraies flûtes maigres et grêles. Les autres couraient et sautaient comme des lapins. Lui, avec sa meilleure volonté, ne réussissait pas à les suivre. Il avait des fusils, des sabres, des frontes, des arcs, des sarbacanes, des casques. Le fils de l'ingénieur Weiss avait même une cuirasse brillante comme celle des hussards. Les autres, qui avaient pourtant le même âge que lui, connaissaient une quantité de gros mots très énergiques. Il n'osait pas les répéter. Il était fort et lui faible. Mais cette fois, lui aussi était venu avec un fusil. C'est alors, après avoir tenu conciliabule, les autres garçons s'approchèrent.
Tu as un beau fusil,
dit Max, le fils de l'ingénieur Weiss.
Fais voir.
Dolphy, sans le lâcher, laissa l'autre l'examiner.
Pas mal,
reconnut Max avec l'autorité d'un expert. Il portait en bandoulière une carabine à air comprimé qui coûtait au moins 20 fois plus que le fusil. Dolphy en fut très flatté.
Avec ce fusil, toi aussi tu peux faire la guerre,
dit Walter en baissant les paupières avec condescendance.
Mais oui, avec ce fusil tu peux être capitaine, dit un troisième.
Et Dolphy les regardait émerveillé, il ne l'avait pas encore appelé Laitue. Il commença à s'enhardir. Alors ils lui expliquèrent comment ils allaient faire la guerre. Ce jour-là, il y avait l'armée du général Max qui occupait la montagne. Il y avait l'armée du général Walter qui tentait de forcer le passage. Les montagnes étaient en réalité de talus herbeux couverts de buissons, et le passage était constitué par une petite allée en pente. Dolphy fut affecté à l'armée de Walter avec le grade de capitaine, et puis les deux formations se séparèrent, chacun allant préparer en secret ses propres plans de bataille.
première fois, Dolphy se vit prendre au sérieux. Les autres garçons, Walter lui confia une mission de grande responsabilité. Il commandait l'avant-garde. Ils lui donnèrent comme escorte deux bombins à l'air sournois, armés de fonte, et ils l'expédièrent en tête de l'armée avec l'ordre de sonder le passage. Walter et les autres lui souriaient avec avec gentillesse, d'une façon presque excessive. Alors Dolphy se dirigea vers la petite allée qui descendait. En pente raide, les deux côtés, les rives herbeux avec leurs buissons, il était clair que les ennemis commandés par Max arrivaient du tendre une embuscade en se cachant derrière les arbres. Mais on n'apercevait rien de suspect. Et capitaine Dolphy, par immédiatement à l'attaque, les autres n'ont sûrement pas encore eu le temps d'arriver, ordonna Walter sur ton confidentiel. Aussitôt tu es arrivé en bas, nous accourons et nous y soutenons leur assaut. Mais toi, cours le plus vite que tu peux, on sait jamais. Dolphy se retourna pour le regarder. Il remarqua que ton Walter, que ses autres compagnons d'armes avaient un étrange sourire et eut un instant d'hésitation. Qu'est-ce qu'il y a ? demanda-t-il. Allons, capitaine, à l'attaque, intima le général. Au même moment, de l'autre côté du fleuve, invisible, passa une phare militaire. Les palpitations émouvantes de la trompette préfèrent comme un flot de vie dans le cœur de Dolphy, qui sera fièrement son ridicule petit fusil et se sentir appelé par la gloire. À l'attaque, les enfants, cria-t-il comme il n'aurait jamais eu le courage de le faire dans les conditions normales. Et il se jeta en courant dans la petite allée en pente. Au même moment, un éclat de rire sauvage éclata derrière lui. Mais il ne peut pas le temps de se retourner, il était déjà lancé, et d'un seul coup, il sentit son pied
retenu.
À 10 centimètres, tu... À 10 centimètres du sol, il avait tendu une ficelle.
Non, c'est pas de ma faute aussi.
Et c'était là le tour de son long par terre.
On se calme.
Se cognant douloureusement le nez, le fusil lui échappa des mains. Un tumulte de cris et de coups se mêla au lit.
Non,
mon âge
pour
le cœur a déjà été fait. C'est pas ma faute aussi.
Non, non.
Ça n'a rien à
faire. Attends, Lucia reprend un tumulte.
C'est où? Un tumulte de cris. Un tumulte de cris et de coups, mais là, aux échos ardents de la fanfare, il essaya de se relever, mais les ennemis des bouchères, des buissons et de bombardèrent les terrifiantes balles d'argile pétries de l'eau. Un de ces projectiles les frappa en plein sur l'oreille, le faisant trébucher de nouveau. Alors ils se tairent, celui et le piétinèrent. Même Walter, son général, même ses compagnons d'armes. Tiens, attrape, capitaine, les tue. Enfin, il sentit que les autres s'enfuyaient de son héroïque. De la fanfare, Ses tempères au-delà du fleuve s'écouaient par les sanglots, la fanfare. Désespéré, il chercha tour autour de lui son fusil. Il le ramassa. Désespéré, il chercha. Ce n'était plus qu'un tronçon de métal tordu. Quelqu'un avait fait sauter le canon, il ne pouvait plus se servir à rien.
Cette douloureuse réplique à la main, saignant du nez, les genoux couronnés, couverts de terre, de la tête aux pieds, il alla retrouver sa maman dans l'allée. « Mon Dieu, Dolphy, qu'est-ce que tu as fait ?» Elle ne lui demandait pas ce que les autres lui avaient fait, mais ce qu'il avait fait lui. Instinctif, dépit de la brave ménagère, qui voit un vêtement complètement perdu, mais il y avait aussi l'humiliation de la mère. Quel pauvre homme deviendrait ce malheureux bambin? Quelle misérable destinée l'attendait? Pourquoi n'avait-elle pas mis au monde, elle aussi, un de ces garçons blonds et robustes qui couraient dans le jardin? Pourquoi Dolphy restait-il sur rachitique? Pourquoi il était toujours si pâle? Pourquoi était-il si peu sympathique aux autres? Pourquoi n'avait-il pas de sang dans les veines? Et se laissait il toujours mené par les autres et conduire par le bout du nez? Elle essaya d'imaginer son fils dans 15-20 ans. Elle aurait aimé se le représenter en uniforme à la tête d'un escadron de cavalerie ou donnant le bras à une superbe jeune fille ou patron d'une belle boutique ou officier de marine, mais il n'arrivait pas. Elle le voyait toujours assis, un porte-plume à la main, avec de grandes feuilles de papier devant lui, penché sur le banc de l'école, penché sur la table de la maison, penché sur le bureau d'une étude poussiéreuse, un bureaucrate. Un petit homme terne, il serait toujours un pauvre diable vaincu par la vie. Oh, le pauvre petit! S'épitoya une jeune femme élégante qui parlait avec Madame Clara. En secouant la tête, elle caressa le visage défait de Dolphy. Le garçon leva les yeux, reconnaissant. Il essaya de sourire et une sorte de lumière éclaira un bref instant de son visage pâle. Il y avait toujours l'amère solitude d'une créature fragile, innocente, humiliée, sans défense. Le désir désespéré d'un peu de consolation, un sentiment pur, douloureux et très beau qu'il était impossible de définir. Pendant un instant, et ce fut la dernière fois, il fut un garçon doux, tendre et malheureux qui ne comprenait pas et demandait au monde environnant un peu de bonté. Mais ce ne fut qu'un instant. « Allons, Dolphy, va te changer !» fit la mère en colère et elle le traîna énergiquement à la maison. Alors le bambin se remit à sangloter, à cœur fendre. Son visage devient subitement laid, un rictus dur lui plissa la bouche. « Oh, ces enfants, quelle histoire, ils font pour un rien !» s'éclama l'autre dame, agacée, en les quittant. « Allons, au revoir, Madame Hitler !»
L'émission est à présent terminée. Nous espérons qu'elle vous a plu et que vous aurez envie de lire d'autres nouvelles.
Nous vous recommandons ce livre, Nouvelle à chute, aux éditions Magnard.
A très bientôt sur Radio Capucin 94.fm. Vous étiez en compagnie de...
Alex.
Julcia.
Salim.
Et moi-même, Florian.
Au revoir, restez branchés.